Il est 15h. Camille Toussaint, bonjour à tous. On vous l'apprenait hier, d'après un rapport d'audit confidentiel de l'inspection des finances, le siège bruxellois de la police fédérale a coûté 40 millions d'euros en trop aux contribuables. C'est le journal L'Écho qui a publié l'information après s'être procuré le document. Et suite à cela, le chef du groupe PS à la Chambre, Ahmed Laouedj, a réclamé une réunion rapide de la commission des finances de la Chambre. Il voudrait entendre d'ici la rentrée les auteurs du rapport, mais aussi le ministre de la tutelle sur la régie des bâtiments. Le bateau humanitaire Open Arms, qui compte à son bord 107 migrants, pourra finalement accoster en Espagne, dans le port d'Algeciras. Depuis deux semaines, le navire attendait l'autorisation d'accoster sur l'île italienne de Lampedusa. Mais le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, s'y oppose fermement. Seuls les mineurs ont pu être ramenés sur la terre ferme à la demande du président du Conseil, Giuseppe Conte. Aujourd'hui, au vu de la situation d'urgence et des conditions de vie dégradantes à bord, le gouvernement espagnol a pris la décision de laisser accoster le bateau. L'Espagne, la France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal et le Luxembourg ont accepté cette semaine de prendre en charge une partie des personnes secourues. Et puis les suites du dossier concernant le navire iranien dans le collimateur des États-Unis. Aujourd'hui, le gouvernement du territoire britannique de Gibraltar a rejeté la demande des États-Unis de retenir le pétrolier qui s'apprête à quitter ses eaux territoriales. Gibraltar explique que les sanctions américaines envers l'Iran ne sont pas applicables dans l'Union européenne. Enfin, en sport, plusieurs rendez-vous ce soir. En hockey, les Red Lions vont tenter de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. Ce sera face à l'Angleterre. En football, après la défaite d'hier soir d'Anderlecht à Courtrai, c'est ce soir au tour du Standard d'accueillir Moucron. Et puis en tennis, David Goffin va tenter, lui, de gagner son premier tournoi Masters 1000. Il affrontera ce soir Daniil Medvedev pour la finale à Cincinnati. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous pour votre attention et bel après-midi.
La première, 15h-16h, majuscule, Eddy Kakelbergs.
Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche en ce 18 août. Je vous amène après l'enfer en tête de cette édition, avec une très très belle BD qui nous emmène dans le monde de la guerre civile, la guerre de sécession américaine. Vous allez le voir, après l'enfer, que reste-t-il ? Il nous reste en tout cas un moyen de vous faire sortir encore de chez vous, de très belles propositions de sortie pour le week-end qui vient la semaine prochaine. Le Festival des Solidarités tout d'abord, et le Festival du Théâtre ouvert aussi. L'un, c'est à Namur, les Solidarités à la Citadelle. Le Théâtre ouvert, c'est à Silly, en province de Wallonie-Picarde. Et avec Marie-Bernadette Mars, je vous emmène encore plus loin, en Grèce. C'est dans les Agoria, avec l'échelle des Agoria, son nouveau roman. Restez avec nous, c'est majuscule.
15h-16h, majuscule, sur la première.
Si vous voulez savoir, en BD, très belle d'ailleurs, ce que c'est que de vivre l'enfer de la guerre, et puis la bascule complète d'une société dans laquelle on vit, et puis de savoir comment on en ressort, que l'on soit l'homme qui revient des tranchées, que l'on soit celle qui a assisté au viol de sa mère et qui en reste là, avec tout ce qui a basculé autour d'elle. Emparez-vous de cet opus Après l'enfer, le jardin d'Alice, signé entre autres par Damien Marie et Fabrice Médour. Damien est avec nous. Bonjour Damien.
Bonjour.
Pas évident au départ, quand on rentre dans le sujet, de se dire waouh, la crudité, la cruauté à l'état brut, on va la retrouver, avec pourtant l'élégance du trait, la beauté de certains des personnages et l'atrocité de ce qui les entoure.
Alors la volonté n'était pas de faire quelque chose d'atroce, bien évidemment. Le sujet est plus de traiter de tous ces personnages qui sont confrontés à la guerre d'une façon ou d'une autre.
Ici, c'est
la
guerre rescapés,
de... Voilà. Ici, c'est la guerre de sécession, mais ça pourrait être une autre guerre.
Ouais.
C'est tous ces laissés pour compte d'une situation de guerre. Tous ces gens qu'on a envoyés se battre sans qu'ils soient pour autant politiser ou pour autant avoir une opinion sur ce qui se passe et sur le bien fondé de cette guerre ou pas. Et puis aussi, et c'est là où la guerre de sécession m'a intéressé, mais on va le retrouver dans quasiment toutes les guerres actuelles, toutes ces personnes qui ne sont pas au front, qui ne sont pas directement dans la confrontation physique directe, mais qui sont en arrière-plan, qui sont sur leur terrain et qui vont en souffrir d'une façon ou d'une autre. Ici, dans le conflit de la guerre de sécession, on a une nouvelle typologie de guerre qui s'est mis en place avec l'invention de la hardware menée sur le territoire des États confédérés, menée entre autres par les troupes du général Sherman qui, eux, ont traversé l'entièreté des États confédérés pour, en quelque sorte, saper l'effort de guerre. C'est une stratégie, hein, comme une autre stratégie de guerre. De toute façon, une stratégie de guerre, c'est jamais louable.
C'est pas fait de dentelle.
Voilà. J'ai voulu, à travers ces deux pans-là, et les différents personnages qui sont les protagonismes principaux, traiter les non-héros. J'ai pour intime conviction qu'il n'y a pas de héros dans une guerre, il y a des victimes. Et on peut être un héros victime, d'ailleurs, en quelque sorte. Et j'ai voulu traiter des personnages qui avaient été confrontés frontalement, physiquement, à la bataille, et puis d'autres qui ont subi la guerre, qui est venue les saper, les arracher à leur quotidien.
On a dit évidemment, hein, dans cette guerre, cette fameuse guerre de sécession ou guerre civile comme on l'appelle aux États-Unis, c'est véritablement deux systèmes politiques, deux systèmes économiques, deux systèmes éthiques qui s'affrontent, en tout cas c'est ce que l'on dit, mais sur le terrain, vous l'avez dit, ce sont des jeunes de part et d'autre qui s'affrontent. Dans une des scènes, on voit ce jour-là, 5000 gamins, ce sont les mots utilisés, sont tombés, se sont affrontés et sont tombés. Quand je disais crudité, nudité de la guerre, c'est parce que vous n'en travestissez rien de l'horreur, même si vous ne vous y complaisez pas, mais quand un œil éclate, ou quand un crâne s'ouvre, quand une panse est trouée, voilà, c'est la réalité charnelle de la guerre.
Alors, j'ai pas eu envie de travestir la guerre. L'histoire a...
Pas autant d'emporte-le-vent. Hein.
Voilà. L'histoire a tendance à souvent à gommer ou à même utiliser des éléments de langage actuels pour parler de choses qui se sont passées à une autre époque. La culture évolue et a tendance à vouloir oublier et à construire un propos manichéen d'une histoire beaucoup plus complexe. On a, pendant la guerre de sécession, tout un pan de l'histoire des États-Unis et quand on parle de l'histoire des États-Unis, surtout à cette époque, c'est notre histoire globalement, deux esprits qui s'affrontent. Mais on n'a pas un bon esprit, un mauvais esprit, on a deux systèmes, un système industriel dans le nord et un système esclavagiste dans le sud, qui s'opposent dans leur fonctionnement et dans leur vision de l'avenir.
Démocrate dans le sud, républicain au nord.
Démocrate dans le sud, tout à fait,
républicain dans le nord. Oui,
on n'a pas l'impression que le schéma puisse être celui-ci, mais c'est bien ça. Tous ces personnages, les personnages que je traite, alors traitent d'éléments historique, traite de la pensée de l'époque en précisant toujours, en l'évoquant dans le livre, mais en précisant toujours que ça n'est pas leur propos. L'abolition de l'esclavage n'est pas le propos de mes personnages. Ils n'ont pas de pensée politique avancée. Et voilà, on a des personnages dont le pays est attaqué, qui a fait sécession à un moment, c'est pas eux qui ont fait directement sécession, des gens politiques ont fait sécession.
Ils ont des mots très durs même pour les leurs, hein, pour voilà. Grant d'un côté, mais pour Lee aussi.
Voilà, pour Lee qui les abandonne à la reddition de Appomattox, en les laissant rentrer chez eux dans un terrain qui est laissé en coupe franche aux Carpetbaggers et autres personnes qui ont le pouvoir de se partager le butin. Donc on a des personnages qui sont perdus et qui vont chercher dans cette fange des raisons de continuer. Alors la première raison de continuer à avancer, c'est bien souvent la vengeance. Toute guerre se finit avec des crâne rasé pour définir qui a trahi, qui n'a pas trahi, ou bien pire. Eux aussi, ils vont être ou motivés par la vengeance, et de cette vengeance naît une ambition de quête. Mais ces personnages, en fait, recherchent du sens, recherchent un endroit où pouvoir continuer. C'est ça qui m'a intéressé. C'est ces personnages un peu brisés, un peu cassés, qui se baladent dans un univers qui n'est plus le leur. Donc il y a la grande histoire, il y a cette histoire-là, et puis à côté de ça, j'ai voulu y apporter un écho lié à quelque chose qui nous appartient tous, à une culture qu'on partage. Et ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, c'est le rapprochement, le parallèle que j'ai réussi à construire, enfin qui s'est imposé à moi, entre cette grande histoire et deux contes, Alice au Pays des Merveilles et Dorothy du Magicien d'Oz, deux contes où on a deux personnages féminins forts qui vont se retrouver toutes les deux dans une situation similaire. C'est-à-dire qu'elles sont dans un monde plutôt confortable dans lequel elles grandissent et elles s'épanouissent. Et puis un matin, une tornade... Paf. Et puis un matin, en suivant un lapin, on arrive dans le terrier, dans le trou d'un terrier, et on se retrouve projeté dans un monde dans lequel on n'a plus aucun code.
La jeunesse, hein, ici, la jeunesse volée par les événements, où il n'y a plus d'innocence possible, je parle de cette scène notamment, où, camouflée sous le plancher, elle sait ce qui arrive à sa mère, elle le raconte en tout cas. Après ça, après cet enfer, après une des phases de cet enfer, qu'est-ce qui peut rester ?
Il reste en tout cas à Dorothy beaucoup de capacité d'analyse.
Ah oui,
j'ai ici un rapport avec elle qui est un rapport un peu littéraire qui me permet aussi de faire avancer l'histoire. On est dans un format de bande dessinée où on doit être assez, en tout cas en tant que scénariste, assez pragmatique pour faire avancer l'histoire et apporter beaucoup de contenu. Elle est très forte dans cette situation-là. Il n'empêche qu'elle n'a plus de ressort, elle est brisée et l'avenir ne va pas être non plus tendre avec elle. Elle avance à l'aveugle en recherchant un but. Le premier but qu'elle va rencontrer, c'est Alice. Et ensemble, elles vont combiner leurs enfers et de leur enfer, elles avancent mieux. Même dans la douleur, il est plus simple de la porter à deux, même si on double la charge, elle est moins lourde que seule.
La mise en couleur est très intéressante entre couleur, sépia et boue. On a quand même une couleur généralement boue. Il y a beaucoup de boue de toutes sortes et de toutes natures. On a couleur terre, en tout cas, je veux dire.
Tout
terre mouillée.
Fabrice, c'est d'ailleurs son premier album en couleur directe. Fabrice a vraiment apporté une empreinte très particulière. Et cette sensation de boue, on la retrouve encore plus prégnante et plus présente dans les quelques scènes de bataille, notamment la bataille du cratère que vous évoquiez tout à l'heure. On n'a plus de couleur d'uniforme. Ouais. On ne sait pas qui est en train d'éventrer qui, tellement la boue, la couleur, le bleu, le gris, déjà la différence propre était assez difficile à déterminer. Mais là, y a plus, on ne sait pas qui étripe qui réellement, et on voit juste une espèce de flou, et c'est assez révélateur de l'histoire. On a des personnages qui sont en train de se chercher, et la couleur va augmenter cette empathie, ce trouble qu'on a pour ces personnages.
Après l'enfer, il reste l'enfer quand même, Damien, parce que on va pas tout spoiler, mais jusqu'à la fin, bon, les épisodes sont connus, l'émergence de cagoules blanches, l'émergence de troupes qui vont se venger sur les Noirs, esclaves libérés, les pendre, les dernières images ne sont pas plus alléchantes que les premières. Si, elles sont très belles et l'histoire est très forte, mais on est loin de tout happy ending hollywoodien.
Vous avez de la chance, vous n'avez pas commencé le tome 2, donc
tout ça est encore bien avec impatience.
Tout ça était encore bien sympathique pour l'instant. Oui, évidemment, c'est après il y a des pans de l'histoire de toute façon. Je joue entre les contes. J'aime bien me créer des difficultés. Je pense qu'on a une écriture qui évolue sous la contrainte. Ici, j'ai différentes contraintes. J'ai notamment des contraintes historiques qui avancent. On évoque à un moment un personnage qu'on évoque comme le grand sorcier Nathan Bedford Forrest, qui s'avérera être le premier grand sorcier du Ku Klux Klan, donc qui techniquement, sans spoiler quoi que ce soit, ne peut pas mourir. Il va avoir une grande vie après, qu'on l'apprécie ou pas, il va être là, c'est tout.
Il est là, ouais.
Et aussi, mes personnages sont liés à des contes. Hein. On a cité Alice et Dorothy, mais nos trois
bons
anciens
hommes
confédérés sont le robot, l'épouvantail et le lion, ça ne vous aura pas échappé. Et d'autres personnages, comme évidemment le chapelier de l'autre côté, la reine, différents personnages vont être là et apportent avec eux leur bagage de contes et la culture et la connaissance qu'on en a. Donc tous ces éléments sont des éléments que je ne souhaite pas trahir en avançant et qui m'obligent aussi à avoir une réponse beaucoup plus réaliste. Nous, humains, on a un cahier de contraintes, un cahier de prérequis intellectuels et de contraintes techniques qui nous obligent à faire des choix pragmatiques. Mes personnages ont aussi leur bagage de par leur fait historique ou de par leur origine de conte. Donc je me débat avec ça, ce qui m'interdit trop de facilité et m'oblige à réfléchir, pour le coup j'aime bien ça, à réfléchir pour aller chercher des solutions dans un cahier de contraintes assez avancé pour le coup, à la différence d'une page totalement vierge et totalement blanche où je pourrais me permettre de leur donner tous les super pouvoirs que je souhaiterais.
Dans une faille de l'histoire et du temps où subitement tout s'inverserait, où ce domaine enchanté du conte, où en général on va se réfugier parce que le monde présent n'est pas beau, c'est l'inverse qui se produit, c'est la fange du monde qui vient entacher l'univers du conte, qui serait pénétré avec sa boue dans l'univers d'Alice, de Dorothy et des autres.
Alors, ce choix d'écriture n'est pas anodin, c'est aussi pour pouvoir le lire dans l'autre sens. J'aime beaucoup le conte d'Alice au Pays des Merveilles, je suis un peu plus dubitatif sur ce qu'en a fait Walt Disney, par exemple. Et aujourd'hui, redonner une lecture de ce conte en le regardant du côté fangesque et de remettre les personnages principaux de ce conte-là dans une situation beaucoup plus réaliste, pour le coup, peut permettre de re-regarder, sans me mettre aucunement à la place de M. Lewis, de re-regarder ces personnages avec un point de vue beaucoup plus adulte et beaucoup moins simplifié que ce qu'a pu nous en offrir le cinéma. Le livre d'Alice au Pays des Merveilles n'est pas aussi angélique que l'image qui en est apparue aujourd'hui.
Bel état de documentation aussi, hein, parce qu'on ne l'a pas encore signalé, mais vous créditez évidemment vos sources, vos références et vos hommages,
entre autres
à André Caspi, qu'on a déjà souvent reçu dans d'autres émissions ici, parce que c'est un grand spécialiste des États-Unis, mais vous nous en prenez évidemment, Lewis Carroll, ce serait difficile de faire autrement, James D.K., James Cameron, belle bibliothèque, dites-donc.
Oui, alors je me suis amusé parce que c'est à mon sens aussi quelque chose d'assez intéressant. Vous citiez Cameron et là pour le coup j'ai fait un hommage avec quelques petites tirades qui sortent d'Aliens. On se dit qu'est-ce qu'Aliens peut venir faire dans une histoire qui se passe pendant la guerre de sécession embuée de contes. Il y a une scène qui m'a marqué, qui a construit mon rapport, mais mon empathie aux personnes, etc. que j'ai voulu ici reproduire en petites touches la relation qui se crée entre Signoe Weaver dans son personnage de Ripley et la petite Newt quand elle la découvre sur cette planète où le xénomorphe s'est fort développé et leur relation ressemble et en tout cas matine la relation entre ces deux personnages quand ils se rencontrent et qu'elle commence à la laver dans la baignoire et fait une tâche de propre et essaie de la rassurer en lui disant qu'elle est arrivée avec des gens qui sont armés et qui sont adulte et que la petite Newt de mon histoire, Alice, lui rappelle que sa maman aussi avait un fusil et qu'elle n'a rien pu faire.
Vous avez combien de tomes sous le fusil ?
On en a deux. Le deuxième apportera la fin de cette histoire avec son lot de surprises, de rebondissements. On va rentrer dans un autre monde, on va s'enfoncer dans le bayou. Donc, pour filer la suite des contes, on va s'enfoncer dans la forêt d'émeraude. On va se rapprocher du grand sorcier et on va rencontrer encore pléthore de personnages. Nos personnages vont continuer à chercher pourquoi ils sont là et vers quel trésor ils tendent.
Bon, ben le rendez-vous est déjà pris. En attendant, on a déjà ce premier tome, Le Jardin d'Alice, hein, dans la série Après l'Enfer, que vous signez à Damien Marie avec Fabrice Médour. J'ai oublié de le dire, évidemment, c'est la collection Grand Angle chez Bambou. Et puis, tome 2 pour Revue Pour.
À peu près la même date l'année prochaine, mai-juin 2020.
Bon, ben le rendez-vous est déjà pris. En attendant, excellent été, vous allez voir. Ça fait réfléchir. Et en même temps, on est porté. Il y a une esthétique de l'image et du récit qui nous ferait presque oublier qu'il y a beaucoup de bouffe. Merci pour cela.
Merci beaucoup.
Et à présent, on continue évidemment à vous inciter à sortir. Hein. On l'a fait tout l'été, pourquoi ne pas continuer ? Les 23, 24 et 25 août, c'est la 7e édition des Solidarités. à la Citadelle de Namur. Avec nous, le directeur marketing chez Solidaris, Martin Wouty, et Denis Girardi, programmateur musical du festival. Bonjour les amis.
Bonjour.
Martin Wouty, on rappelle quand même d'abord que ce festival, ce n'est pas que de la musique, c'est bien sûr de la musique toute la journée pendant les trois jours et en soirée, mais c'est aussi une série de stands, de débats, de discussions. Les solidarités, ce n'est pas que du plaisir, c'est aussi la tête qui travaille.
Oui, la tête qui travaille si elle a envie de travailler. Hein. On n'oblige pas les gens à faire un devoir de vacances. Se poser des questions, alors ça passe par la mise en place du village des associations. C'est 51 associations qui seront là cette année et qui vont toutes déployer une inventivité et de la créativité pour rencontrer un public qu'elles voient relativement peu, ça va dans les deux sens. C'est aussi, et on ne le répète pas assez, une très très grande fête populaire et familiale. C'est sans doute le seul événement dans la catégorie des festivals où on va retrouver des choses pour des enfants dès 3 ans. Et c'est surtout le tout gratuit pour les moins de 12 ans et sans quota. Chez nous, l'adulte qui élève 2 enfants ou 3 enfants seul, ben il viendra avec les 3 enfants. Et d'ailleurs, il viendra souvent avec les copains des enfants. C'est aussi le village hip-hop. C'était important pour nous, par rapport aux jeunes, de mettre en avant pas seulement la musique hip-hop. Le hip-hop, c'est une culture, c'est la culture urbaine, c'est une manière de voir la société. Et c'est tout ça qu'on veut mettre en contact avec les gens. C'est une énorme machine à découverte. C'est des rencontres, et puis c'est toute la dimension agora, c'est les débats et l'exposition du tunnel.
Ah ben voilà, je voulais en arriver à ça, parce que l'an dernier, vous nous aviez fait la grande surprise de ce tunnel, avec cette expo saisissante, hein, ce trajet de la migration qui nous emmenait d'une rive à l'autre. Cette année, c'est quoi ?
Cette année, la thématique des solidarités, c'est le climat, l'urgence climatique et les enjeux, évidemment, de société, d'égalité sociale. Et donc, le tunnel, ben, on va pas le changer, ça restera le tunnel de la Citadelle, mais avec une nouvelle scénographie. On est reparti d'une page blanche et on va mettre l'accent un peu plus au travers de cette thématique du climat sur les réfugiés climatiques, cette dimension humaine. Alors il va y avoir énormément de surprises. Le principe restera toujours le même. C'est une immersion sensorielle qui amène les gens face à eux-mêmes et avec eux-mêmes. Et finalement, c'est là aussi qu'ils se poseront des questions et qu'ils vont probablement changer de regard. L'année passée, ça a été une surprise pour 14 000 personnes.
Ah, ça en était une. Hein. C'est un grand coup de poing dans le plexus solaire, je vais vous dire.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on souhaite le faire, sans dogmatisme. Chacun sortira de cela avec ce qu'il a envie de retenir. On collabore avec un immense photographe qui s'appelle Gideon Mendel, qui a travaillé sur le sida, sur l'Afrique, et qui, depuis maintenant une dizaine d'années, travaille sur le climat au travers des inondations un peu partout dans le monde, et on aura une de ses œuvres qui sera au milieu du tunnel. Là, ça sera une expérience exceptionnelle.
Bon, allez, déjà, on va s'engager dans le tunnel. S'engager, c'est le mot aussi, puisque vous vous engagez autour de la question climatique, hein, je l'ai bien lu. Vous renforcez encore l'objectif zéro plastique, donc pour tous ceux qui viendront nous vendre de quoi se sustenter ou se désaltérer, interdiction de plastique.
Plastique interdit, et même chose pour les bars, on passe aux gobelets réutilisables, interdiction des petites bouteilles en plastique, hein, très connues. Il n'y en aura pas. Et puis plein d'autres choses. On va aller jusqu'à mettre des composts en place, énormément de sensibilisation. On est en train de monter une brigade verte, donc constituée de bénévoles qui ont envie de faire ce boulot-là. Ça correspond vraiment aux attentes du public. Il fallait le faire.
Ce public qui va évidemment venir à la fois se mobiliser, discuter, découvrir et évidemment se divertir, Denis Girardi, avec toute une série de choses très belles. On commence le vendredi 23 août. Hein. D'abord, on rappelle, hein, 4 scènes, des grandes têtes, déjà dès l'ouverture. Je vois déjà celle d'Axel Red, par exemple.
Oui, c'est peut-être l'artiste qui résume le mieux la programmation de cette année, c'est-à-dire une artiste pop-rock, populaire, et une artiste qui, à travers toute sa carrière, a fait passer un certain nombre de messages importants, peut-être moins dans ses chansons que par son action quotidienne. Axel est ambassadrice de l'UNICEF, des droits de l'homme. Elle correspond vraiment bien à la philosophie de ce festival et de la programmation en règle générale.
Alors, on a aussi Chico Simendes, Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, un feu d'artifice pour commencer. Vous commencez par le feu d'artifice, vous?
Oui, mais on terminera aussi par le feu d'artifice et au milieu, ce sera un énorme feu d'artifice.
Alors, le samedi, on a Angèle, on a Aurel, on a quoi, Beautiful Badness, Charlie Winston, enfin bref, il y en a une tonne sur tous les quatre sites. À partir de quelle heure ?
À partir de 13h, les spectacles commencent, mais à 11h30 déjà, spectacle d'André Borbet, scène de l'Agora pour les enfants, parce qu'on démarre très tôt les spectacles pour enfants.
Il y a beaucoup de monde, hein, Denis, on rappelle, c'est un beau volume quand même.
50 000 personnes en deux jours, donc cette année avec le vendredi, on dépassera les 60 000.
Ouais. C'est du monde.
Oui, il y a beaucoup de monde, et au niveau de la programmation, il y a une cinquantaine de spectacles, mais comme Martin l'a dit, il n'y a vraiment pas que cela sur l'espace de la Citadelle durant ce long week-end. Et c'est une programmation qui est à la fois populaire et pointue. Alors, je m'expliquais là-dessus. On ne joue pas la facilité, ni dans la variété populaire, comme on l'appelle communément, ni non plus dans les découvertes trop pointues. On essaie vraiment que le public de tel ou tel artiste puisse adhérer à un autre artiste qui est dans un autre genre musical.
Moi, parmi mes coups de cœur du samedi, je vous le dis déjà, il y a Musty, et ça, voilà, je ne vais pas louper. Mais il y en a plein d'autres. Vos coups de cœur à vous ?
Bah, Musty... une parenthèse qui fera vraiment son dernier concert de l'été, et ça va être un concert tout à fait spécifique qu'il nous prépare pour le samedi, après quand même la révélation belge, mais pas rien que belge, francophone de l'année, qui est Angèle. Moi personnellement, mon coup de cœur, il est assez simple, c'est Gaëtan Roussel, parce que je trouve que cet artiste est un artiste formidable. J'espère que je n'ai pas coupé le mot à Martin, mais c'est un artiste auteur-compositeur fantastique, ouais. et je suis un inconditionnel de tout ce qu'il a fait il y a très longtemps et de tout ce qu'il fait toujours à l'heure actuelle.
On l'a beaucoup passé d'ailleurs cette année, parce qu'effectivement on l'aime bien. Alors on enchaîne le dimanche, hein, puisqu'on va monter vers l'autre feu d'artifice. Mmh. Toujours autant de concerts le dimanche, Denis ?
Oui, oui, relâche pas la pression du samedi. Également, un grand mélange des genres.
Ouais, avec Camélia Jordana.
Avec Camélia Jordana, Aya Nakamura, qui était une des révélations de cette année dans la musique un peu soul et hip-hop. Kenji Girac, qui pour la première fois viendra à Namur. Le dernier album de Kenji Girac a été écrit en grande partie par le Belge Damso. Et on termine par un coup de cœur de l'année passée, mais on sentait quand même déjà bien qu'il allait se passer quelque chose autour d'elle. C'est Clara Luciani qui va clôturer ce festival sur la grande scène.
On va transporter à peu près 100 000 personnes gratuitement avec un dispositif de navette de bus absolument inégalé. Tout se prépare très bien. J'ai envie de souligner une très bonne collaboration avec la ville de Namur, qui a sans doute aussi pris conscience de l'importance de l'événement de par le fait que maintenant les solidarités s'exportent à Dijon pour la première fois, peut-être au Maroc dès 2020, un peu à l'instar des francopholies qui sont partis de France, qui sont venus en Belgique, qui ont été au-delà de l'Atlantique, ben on se rend compte que les solidarités commencent à marquer leurs différences et à s'exporter. Voilà. Et puis peut-être un dernier mot, Denis ne l'a pas dit, mais c'est parce qu'il est modeste. Pour la deuxième fois, il est arrivé à faire une programmation 50-50, donc on aura la moitié d'artistes féminines et on est extrêmement fiers de ça.
Merci de nous l'avoir rappelé. Donc les 23, 24 et 25 coûte dans quelques jours. Rendez-vous à la 7e édition des Solidarités à la Citadelle de Namur. Armstrong, tout est bleu.
Comment vous dire?
Restez bien à l'écoute, hein. On a rendez-vous avec Marie-Bernadette Mars et son livre « L'échelle des agorias ». Vous allez découvrir une part de l'histoire grecque avec cette passionnée de la Grèce, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et puis, je vous emmène aussi au théâtre, au festival du théâtre au Vert, à Cilide, à Toricourt très précisément, en Wallonie-Picarde. Restez à l'écoute.
15h, 16h sur la première, majuscule.
Le classeur 5 ou 8 cm est à 99 centimes. On le surnomme déjà le seigneur des anneaux.
Cora, la passion du choix. La première et la 3 présentent...
Sonic accueille le nouveau-né entre ses mains. Avec sa paume, elle fixe vite son sexe afin qu'il ne change pas et enveloppe son corps dans plusieurs peaux.
Intime Festival, chapitre 7, 23, 24, 25 août.
Avec le soir, BTV, Moustique et Canal C.
Mathieu, Vita et Slimane sont les coachs de la première saison de The Voice Kids. Ils sont prêts pour ce nouveau défi, plein d'émotions, d'émerveillement et de fun.
Bonjour à tous.
On vous attend pour une nouvelle aventure.
On compte sur vous.
Ça va être dingue.
Inscris-toi sur rtbf.be/The Voice.
Première, 15h, 16h. Majuscule, Eddie Kackelbergs.
Univers très particulier avec Marie-Bernadette Mars qui, après un premier livre qui lit ça, nous revient ici avec l'échelle des agorias qu'elle publie très sérieusement chez Academia. Bonjour Marie-Bernadette Mars.
Bonjour.
Alors cette expérience bi-romanesque vous a donné l'envie de quitter vos amours premières, serais-je tenté de dire? C'est devenu votre passion première?
Vous parlez de la Grèce.
Oui.
Oui, en fait, donc le premier roman se passait dans la Grèce antique, mais ici, j'avais envie de faire autre chose. Donc, un des points communs, c'est toujours un univers qui est vu par l'intermédiaire de femmes. Et donc, ici, j'avais un petit peu deux objectifs. Donc, il y a deux parties qui sont, deux grandes parties, il y en a trois, mais deux grandes parties qui sont relativement différentes. Donc, la première partie, c'est essentiellement sur la transmission. Et ça, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Comment, d'une génération à l'autre, peut-on transmettre des choses. Et donc ici, il y a la transmission de la grand-mère à sa petite-fille, donc sa petite-fille qui est une photographe de 25 ans. Et alors la deuxième partie, là c'est beaucoup plus politique, plus engagé. Et là, j'avais envie de dénoncer un peu les dictatures et les guerres civiles.
Parce qu'on n'est pas dans n'importe quelle toile de fond de n'importe quelle Grèce non plus et de n'importe quelle partie du monde.
Non, exactement. Et ce qui me frappe un peu, c'est combien les dictatures ont encore été présentes et importantes au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et combien parfois certains propos actuels font peur. Et on se dit qu'on n'est pas loin vraiment d'une intolérance en termes politiques. J'avais vraiment envie de dénoncer, d'avoir en toile de fond, d'une part, les guerres civiles, et d'un autre côté, donc ici, j'ai choisi la dictature des colonels. Et je choisis la Grèce parce que...
C'est votre passion, c'est votre amour, c'est votre berceau.
Oui, mon berceau.
En tout cas...
Pas grec d'origine, mais j'étais professeur de grec.
Voilà, c'est ça, votre exactement. Passion professionnelle.
Oui, tout à fait.
Et sans doute même plus que ça. Pour revenir effectivement à cette envie de dénoncer aussi les dictatures et peut-être un certain climat actuel, il ne m'a pas échappé que votre exergue est tout à fait référente. Vous dites, pour toutes les femmes qui, un jour... ont quitté leur quotidien pour oser un geste de résistance. Pourquoi ne parle-t-on, à votre estime, jamais ou peu de ces femmes qui, dans les guerres, dans les mouvements, ont non seulement maintenu l'économie, mais ont accompli des gestes de résistance active et sont mortes, souvent, sous les balles ennemies, sous les balles et la torture ennemies, pour ces faits-là? Pourquoi en parle-t-on moins?
Je pense que l'histoire et la littérature ont longtemps été entretenues essentiellement par des hommes. Donc je pense que ça a pu jouer. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre, enfin j'ai beaucoup de chance de vivre ici et aujourd'hui, en tant que femme notamment. Maintenant, je ne suis pas sensible uniquement aux femmes dont on parle peu. Il y a par exemple un passage ici où je fais aussi allusion à tous les guerriers, tous les gens qui meurent à la guerre, et dont on ne garde pas le nom. Voilà, là, je pense que les femmes sont souvent dans l'ombre, sont souvent les ignorées de l'histoire.
Dont l'histoire ne se transmet que de bouche de femme à oreille de petite fille, par exemple.
Par exemple, oui, c'est un petit peu le cas ici, donc dans la première partie, même si au point de départ, donc la petite fille ici se rend compte petit à petit qu'elle a assez bien de connivence avec la grand-mère, on lui dit souvent qu'elle lui ressemble, et ça, ça l'intrigue, mais elle se rend compte petit à petit que la grand-mère, donc, qui est grecque d'origine, n'a jamais parlé de son passé.
Elle fait donc partie de celles qui, comme les rescapés de la Shoah, comme les rescapés des grands drames arméniens, comme les rescapés tout court, ont préféré à un certain moment fermer, sceller la mémoire pour ne pas transmettre le malheur. Et un jour pourtant, la transmission doit se faire avant que la mort ne la rattrape. Il faut que sa petite fille, photographe de 25 ans, Léa, soit en quelque sorte dépositaire.
Oui, oui. Oui, et en fait, quand elle s'en rend compte, elle est trop âgée, elle est trop mal en point, elle n'est plus capable de faire le voyage. Et donc, les seuls contacts, à la limite, qu'elle ait gardé, c'est avec une amie qui a à peu près son âge, à peu près 80 ans, mais qui est en bien meilleure forme qu'elle. Et donc, toute la deuxième partie, ça va être la rencontre entre Léa, donc la petite fille, et donc Maria, cette amie de la grand-mère en Grèce.
Qui
donc,
va lui faire découvrir, effectivement, les traces de sa famille, les traces de sa grand-mère, les traces des luttes, les traces de l'indicible aussi, hein, parce que ça n'a pas été une partie de plaisir.
Et qui va poser la question de la responsabilité de chacun et chacune, et ici spécialement de chacune, qu'a-t-on envie de faire et qu'y a-t-il moyen de faire dans un contexte vraiment ici d'oppression. Donc,
c'est vraiment cette éternelle question, qu'aurais-je fait ?
Tout à fait, oui, 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 oui.
Si nous avions été à leur place.
Et ça, c'est une question, évidemment, que je me suis posée et je n'ai pas de réponse.
C'est existentiel. C'est
du... Oui. Mais tant qu'on n'est pas dans la situation...
Pourquoi la région des Agoria ?
D'une part, donc, ça se trouve dans le nord de la Grèce, pas loin de l'Albanie. Donc, c'est une région où il y a eu énormément de résistance à différentes époques, aussi bien sous l'occupation ottomane que par après. Alors, une deuxième raison, c'est une région absolument splendide. Se trouve là-bas, notamment, les gorges les plus profondes du monde. Et on ne le sait pas en général, on ignore ça. Je trouve que la Grèce est souvent dénigrée. Et moi, c'est une région que je trouve absolument merveilleuse, mais qui est un petit peu loin des sentiers battus. Les Agoria, c'est une quarantaine de villages qui maintenant vivent un peu du tourisme, mais qui ont gardé une architecture traditionnelle. Et bon, la première fois, j'y suis allée un petit peu par hasard. Et puis, ben, notamment pour écrire le livre, j'y suis retournée trois fois en logeant chez l'habitant. Parce que bon, dès le moment où je situais l'histoire dans un village précis... Je voulais évidemment que ce que je raconte tienne. Par exemple, j'ai été voir s'il y avait une école il y a une cinquantaine d'années là-bas, la couleur des plafonds, enfin, toute une série de choses dont je voulais parler qui sont présentes ici.
On ne peut pas vous prendre en défaut.
Si, certainement. Certainement, à d'autres moments. Mais là, je voulais quand même restituer la réalité de ce village-là et peut-être un peu faire connaître cette région-là aussi.
Qu'est-ce qu'elle a eu à vivre, Stamatia, puisque la grand-mère s'appelle comme telle ? Qu'est-ce qu'elle a eu à vivre pour pouvoir à la fois résister et devoir quitter ? Parce qu'à un certain moment, c'était devenu intenable.
Mais je ne vais pas dévoiler ici l'intrigue. Mais en fait, elle a quitté la Grèce après quelques mois d'occupation des colonels. Et ce qui a été un petit peu déterminant, c'est qu'avec son amie, avec Maria, quand il y a cette occupation des colonels, elles vont revivre des choses qu'elles avaient vécues 20 ans avant, en gros 1947, puisqu'en après la guerre 40-45...
Rien ne s'arrête, en fait. Hein,
rien ne s'arrête. Ah non, non.
C'est, pour les
exactement,
Grecs.
Exactement, oui. Mais à ce moment-là, elles ont une dizaine d'années. En fait, elles ont vécu un peu ce climat de terreur. Je crois que c'est vraiment la terreur, parce que je trouve que la guerre civile, c'est absolument horrible, parce qu'on n'a plus de point de repère, on se méfie de tout le monde. Et elles ont vu des gens mourir, des gens être exécutés. Elles n'ont pas vraiment vu, elles en ont entendu parler. Elles ont 10 ans sans bien comprendre la portée. Et tout ça va, en fait, revenir en surface quand va régner donc, sur ce village. La présence de trois personnes qui évidemment font partie du parti des colonels.
Il faut rappeler hein, qu'en 1947, on ne le dit pas assez, la Grèce de l'après-guerre est le théâtre d'une lutte à mort
oui.
Entre droite, extrême droite et gauche, oui. Mais même de la part des forces britanniques et alliées qui pourchassent les résistants communistes au oui. Point de les chasser vers la Hongrie, de peur que la Grèce et son accès au détroit ne basculent dans le champ communiste.
Ah oui, tout à fait. C'est un épisode qu'on connaît peu, qui a duré 4 ans, où il y a eu des dizaines de milliers de morts. J'ai d'ailleurs cité à la fin l'un ou l'autre livre que j'avais lu là-dessus, notamment La Marche des Neufs. Mais c'est un épisode qu'on connaît très très peu.
Il n'est pas glorieux.
Il n'est pas glorieux. Ah non, 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 non. Et qui effectivement, comme vous le dites, a été soit entretenu, soit même provoqué par les alliés. Avec, oui, cette hantise des communistes, du communisme est absolument terrible. Quoi. Et alors ici, moi j'ai fait un peu... Je n'avais pas envie de prendre parti. là-bas. Parce que je trouve qu'une guerre civile, il y a souvent des choses horribles des deux côtés. Et je n'avais pas trop envie de prendre parti là-bas, même si je trouve que Churchill notamment et les alliés ont vraiment diabolisé, et ça je le dis clairement, ont vraiment diabolisé le parti communiste, qui avait quand même été un peu à la base de la première résistance, et qui a entretenu ça par après.
Comment on se méfiait de Tito à quelques encablures de là, dans la Yougoslavie naissante. Il faut se poser cette question, quand on fait cet acte de transmission, quand on suscite chez la génération des petits-enfants l'envie de devenir dépositaires à leur tour, c'est souvent un, parce qu'on pense que sa fin est proche, et qu'ils deviennent les derniers à avoir, ou les dernières, à avoir entendu de la voix directe des témoins le récit. Après, elles seront porteurs ou porteuses de récits qu'elles n'ont pas vécu.
Oui.
C'est un lourd fardeau. Hein.
Oui.
Léa subit en quelque sorte l'initiation ultime. Oui.
Et je trouve que c'est une question, bon, j'ai été professeur pendant des années, c'est une question, la transmission, elle est présente aussi dans l'autre livre. Parmi tout ce qu'on transmet, parmi ce qu'on raconte, parmi les valeurs qu'on transmet, on se jette un peu à l'eau et on ne sait pas du tout ce qui va en rester. Et on ne sait pas par qui ça va être transmis. Par exemple, dans l'autre roman,
Kilissa.
Donc Kilissa, ça veut dire la Cilicienne, c'est une esclave. Finalement, à la fin, il n'y a que elle qui reste pour raconter l'histoire, pour raconter comme témoin. Et là, je trouve que, de nouveau, on rejoint un petit peu les femmes de l'ombre. Moi, je pense qu'il y a ainsi des femmes tout au long, je parlais du XXe siècle, parce que c'est plus proche de nous, mais qui ont été parfois des gens de maison, qui ne faisaient pas vraiment partie de la famille, mais qui étaient là tout le temps, et qui ont été vraiment extrêmement importants. Je fais aussi allusion, d'ailleurs, dans la première partie des récits, à une certaine Juliette, qui était là tout le temps, qui était présente, et qui... je pense qu'il y avait ainsi énormément de femmes extrêmement importantes pour leur entourage, qui ont vraiment joué un rôle, qui ont joué une initiation, qui ont été à la source d'une initiation à des tas de choses, à des tas de valeurs, à la beauté de la vie, à la littérature parfois, enfin, qui en tout cas ont éveillé des gens, et puis on risque de les oublier, on en parle très très peu.
Une dernière question, Marie-Bernadette Mars, c'est aussi, dites-moi si je me trompe, mais une fabuleuse ode de confiance en la jeunesse, et bon, venant d'une enseignante, ça n'est pas forcément une surprise, mais quand même, c'est un immense acte de confiance que de léguer, que de mettre le dépôt, parce que cette jeunesse pourrait aussi bien tourner le dos au dépôt et dire « non, c'est trop lourd, j'en veux pas ».
Moi, je fais une confiance très, très grande. Ah oui, 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 absolue, dans les jeunes. Ah oui.
Ici, Léa est investie positivement de votre confiance. Hein, on le sent de bout en bout.
Oui, mais ce n'est pas artificiel. Non, ça dans ma vie professionnelle, ma vie familiale, là, c'est clair que je fais vraiment... Je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à la jeunesse actuelle, par rapport aux valeurs, là,
absolument pas. Vous n'avez pas peur que sa mémoire soit césurée, qu'elle soit en perte de mémoire, qu'elle oublie le passé au point de devoir le revivre?
Ah, si, c'est toujours une crainte. Si, c'est clair que c'est une crainte, mais on peut avoir confiance tout en craignant, c'est un risque.
Mais la meilleure potion, c'est peut-être d'aller remarcher sur les traces, non? Ce que vous proposez ici, somme toute.
Ah oui, ici, oui, de redécouvrir et de découvrir ici des choses à quoi on ne s'attend pas, des facettes des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Et ça, j'avais aussi envie là-bas d'ouvrir des voies en me disant, mais voilà, on est entouré de gens, c'est pas... Et ça, il y a aussi là-bas des réminiscences de récits mais de la guerre 40-45, des choses entendues par les grands-parents, par tout un entourage.
Donc, on est là, encore dans une transmission orale, hein, d'ailleurs, beaucoup. Hein.
Oui.
Donc vous nous avez donné l'envie d'aller dans cette région fort peu connue du nord de la Grèce, vous nous l'avez dit, proche de l'Albanie. Hein.
Oui, c'est vraiment le nord. Voilà. C'est vraiment le nord-ouest.
Le nord-ouest, les Agoria. Donc c'est un bon conseil. On va aller se rendre là-bas, dans ces régions gardant cette grande part d'authenticité. On va s'installer, votre livre à la main. On va le découvrir in situ, ce sera encore mieux. Et puis, on va cultiver ce souvenir et se questionner aussi, parce que nous avons une part de responsabilité dans ce qui est arrivé.
Oui,
hein.
Oui.
Et c'est bien ça que vous nous dites.
Ah oui, absolument. Oui. Oui. Oui, et je veux aussi insister sur la part de responsabilité qu'on a à des moments différents, à des endroits différents, qu'on a quand même très régulièrement dans la vie, à petite ou à grande échelle. Mais...
À propos d'échelle, c'est le titre.
L'échelle
des Agoria, c'est votre roman, c'est chez Academia, c'est signé par vous, Marie-Bernadette Mars, tout comme Kilissa d'ailleurs, que l'on peut retrouver dans la même collection. Merci.
Merci beaucoup.
Lisons Deuce. Poursuit bien sûr comme tout l'été notre envie de vous faire sortir de chez vous et vous savez qu'il y a quelques valeurs sûres avec lesquelles on a des rendez-vous quasiment obligés hein, chaque été vers la fin de l'été ici en l'occurrence du 21 au 25 août. Vous vous rendez sur la grande place de Toricourt et les environs et puis vous allez découvrir la programmation, comment on va le faire d'ailleurs, du Théâtre au Vert qui se déroule dans l'entité de Silly. À nos côtés, le directeur artistique de ce festival. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour.
Alors Mathieu, on va commencer par planter ou replanter le décor pour les quelques rares, celles et ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas encore parce que bon, on les a quand même déjà un peu habitués à venir vous voir.
Alors oui, de fait, pour certains festivaliers, c'est devenu une habitude, mais on est content qu'il y en ait toujours de nouvelles têtes, ça c'est un plaisir. Donc il faut imaginer le petit village de Toricourt dans l'entité de Silly, qui l'espace de quelques jours se transforme en lieu de festival de théâtre. On n'a pas de salle pendant l'année, donc tout est créé de façon éphémère. On a le chapiteau des baladins qui nous aide bien, évidemment. On a un autre chapiteau éphémère, on aménage une grange, on investit une église. Donc tous ces espaces deviennent des vrais théâtres, parce que ça c'est vraiment un point très important pour nous. C'est le confort des festivaliers et donc le confort des artistes qui nous font le plaisir de venir donner leur spectacle chez nous.
Alors, on va d'ailleurs parler hein, de ces baladins qui, tout à fait fidèlement, viennent planter leur tente et souvent donner des premières, des avant-premières, ou en tout cas l'envie d'eux. Ici, c'est du très grand texte encore, Federico Garcia Lorca.
Exactement, donc c'est une création, une avant-première, puisqu'il faut laisser la première à qui de droit. C'est une avant-première qui a lieu à Toricourt, du Lorca. Pour l'occasion, il bénéficie de la mise en scène de Dominique Serron, de l'Infini Théâtre. J'ai eu la chance d'assister aux dernières répétitions, ce sera magnifique.
Désir, terre et sang.
Exactement.
Tout un programme. Bon, on ne s'arrête pas que là, on l'a dit, il y a du théâtre intimiste, il y a du théâtre plus grande scène sous le chapiteau. Et puis cette année, il y a une participation peut-être un peu plus étonnante, non ? Avant qu'on ne l'accueille, Julie Mosset, vous nous dites un petit peu les raisons de votre choix, Jukebox Opéra.
L'authenticité du jeu, c'est vraiment un plaisir qui est partagé avec le public. Toute l'équipe est allée voir, a découvert le projet. On a tous été séduits, donc il n'y a pas eu beaucoup de débats au niveau de la sélection. Il y a une générosité sans phare et c'est vraiment un plaisir pour nous que de l'accueillir à Toricourt.
Et alors Julie, bonjour.
Bonjour.
C'est aussi un grand plaisir pour nous. Ce qui va peut-être surprendre celles et ceux qui nous écoutent, c'est que entre celles et ceux qui vous ont découvert sur la scène de Reine Elisabeth, celles et ceux qui pourraient ne pas vous avoir oublié dans Fritkot, celles qui vous auraient retrouvé peut-être chantonnant dans votre salle de bain, vous allez nous offrir un florilège, c'est ça ?
Oui, c'est un peu ça, un parcours musical qui rassemble tout ça, qui se veut assez universel justement.
C'est quoi vos passions en dehors de l'art lyrique sur le plan du chant ?
Sur le plan du chant ? Alors, j'écoute beaucoup de jazz, j'ai la chanson française énormément. En fait, j'écoute peu d'opéra finalement. Je vais voir l'opéra, je me rends à l'opéra, mais j'en écoute peu. Donc oui, j'ai plein de passions, j'ai été élevée à Radio Nostalgie, donc voilà, c'est très éclectique.
Et la scène, j'ai dit, comédienne également, qu'est-ce qui vous permet de lier les deux ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la scène lyrique exige un bon statut de comédien ? Ça n'a pas toujours été le cas, on arrivait parfois un peu campé face publique et puis hop, on balançait.
En effet, je veux dire, la mise en scène gagne beaucoup du terrain à l'opéra et devient vraiment quelque chose d'essentiel, peut-être pas autant que la musique, parce qu'on a quand même cette partition qui nous cadenasse un peu, mais je me sens pas spécialement comédienne. Hein. Je suis vraiment une chanteuse, vraiment, dans l'âme, je pense. Maintenant, je chante des mots, forcément, donc c'était un exercice, une grande partie du travail, que de passer quand même vraiment du texte. Et on a cherché vraiment avec l'auteur, donc je suis co-auteur avec Paul Pourvoir, justement de coller à ma manière de parler, naturellement, qui me facilitait les choses quant à la comédie.
Vous nous pitchez un petit peu ce jukebox opéra?
Oui. Tout est réglé comme une horloge suisse. Mon père et mes frères cuisent les frites, ma mère gère le stock, ma grand-mère précuit les viandes, elle est la meilleure pour la célèbre sauce lapin. Mes sœurs sont cotées hamburger, boudin et saucisses de campagne, et moi, j'ai gravi les échelons. D'abord, nettoyage des cuves, les plaques, les ustensiles, je veux que tout brille. Ensuite, changer les graisses, peler les oignons, couper au pain. Puis, prendre les commandes des clients. Puis, cuire hamburger, boudin et saucisses de campagne. Et enfin, radio nostalgie à fond la caisse, j'arrive à mon but, la cuisson des frites. J'aime, j'aime la vie. J'aime, j'aime la vie. J'aime, j'aime la vie, ne m'en veuillez pas. Je suis née comme ça.
Eh ben, dites donc, ça va décoiffer solide. Mathieu, vous l'avez engagé pour faire à la fois jukebox opéra et en même temps le frit-cot au bord de piste du chapiteau des Baladins.
Nous ne lui confions que la scène cette année.
Julie, vous connaissez le festival du Théâtre Ouvert?
En fait, non. C'est la première fois pour moi dans le festival Théâtre Ouvert. Parallèlement, il y a, et c'est lié, le festival musical où là, j'ai fait plusieurs récitals.
Avec donc vous connaissez l'entité en tout cas.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est un public exigeant, hein, vous le savez.
Oui, exigeant, mais attentif et fidèle et souvent très très accueillant. Et j'ai beaucoup de plaisir à y retourner. Donc, là,
exigeant, mais bienveillant. C'est sans doute le mot. Ça vous plaît de mêler les genres comme ça, Julie Mossé?
Ah oui. Ça me plaît vraiment. Et je pense que dans mon statut de chanteuse lyrique, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Pour aussi, quelque part, être moi-même dans mon milieu, de mélanger les genres.
Vous allez, Mathieu Noël, m'aider à faire la transition, le choix de eux sur la photo, puisqu'on va accueillir Renaud dans un instant, dans la maison éphémère.
Oui,
vous nous parlez du lieu et du choix.
On veut rester originaux dans nos propositions. Et la proposition de la maison éphémère est particulièrement intéressante dans ce sens-là, puisqu'elle nous donne l'occasion d'aborder une nouvelle forme, un spectacle déambulatoire, c'est pas tous les jours, déambulatoire dans le parc du château, qui est un parc privé. Les châtelains nous ont tout de suite accueillis à bras ouverts quand on leur a présenté le projet. Donc on est allé avec la metteuse en scène dans le parc du château pour repérer les lieux. Et donc ce sera une très belle surprise cette année à Toricourt.
Alors Renaud, vous nous parlez un petit peu de votre prestation, eux sur la photo, parce que là ils viennent nous donner l'eau à la bouche, mais laissez-nous entrevoir un petit peu.
Bonjour Eddie Kakelbergs. Eux sur la photo se caractérise par une forme assez originale, je crois effectivement il s'agit d'un roman photo théâtral.
Ah oui.
La metteuse en scène Brigitte Bayeux, qui est l'adaptatrice du texte Eux sur la photo, qui est un texte écrit par Hélène Gestern, roman épistolaire. Elle a souhaité se lancer dans cette forme originale, donc l'idée c'est qu'une série de photos sont disposées dans le parc où nous nous représenterons, sont disposées en 16 stations, et les spectateurs seront accompagnés d'un narrateur, amenés à circuler de station en station, qui accueilleront des photos très grandes, des photos de 3 mètres sur 2, qui sont des photos de famille, qui nous permettront de raconter notre histoire, qui est en fait l'élucidation d'un secret de famille terrible.
Waouh !
Et c'est toujours comme ça, ça ? C'est toujours déambulatoire ?
C'est toujours déambulatoire,
ah,
oui.
Okay.
On a souhaité que le spectacle reste très intimiste chez nous, donc on va rester à 60 personnes par représentation.
Toutes munies d'un siège, donc.
Ah, et qui se trimballe avec nous.
Se trimballe avec nous, oui, voilà.
Waouh !
Et là, ce sera en plein air.
Ce sera en plein air, oui.
Et donc, on se fait du roman photo live.
On se fait du roman photo
et
live,
un
oui.
Cluedo gigantesque, en quelque sorte, pour aller à la recherche du secret de famille.
Tout à fait.
C'est très à la mode, hein, parce que cet été, on a aussi parlé, par exemple, d'un jeu, un inside game qui va se dérouler à l'Opéra de Paris. Julie Mossé, vous serez peut-être invité pour aller pousser l'air, pour découvrir, faire sortir le fantôme de l'opéra. Ici, on va faire sortir l'histoire des photos dans le jardin. C'est une vraie performance, ça. Il faut les enchaîner, les photos.
C'est une performance, c'est-à-dire que Brigitte Bayeux est une metteuse en scène très délicate, avec laquelle il est très agréable de travailler. Donc cette dimension performative, elle l'a fait passer comme une lettre à la poste. C'est d'autant plus agréable de jouer ce spectacle qu'il se joue effectivement dans l'intimité avec le spectateur. Donc c'est une déambulation à laquelle nous participons en tant qu'acteurs. Nous accompagnons les spectateurs dans cette aventure qui se jouera quelques soirs. Et du coup, avec les spectateurs, nous rentrerons dans la nuit.
Le vendredi à 21h, vendredi 23, donc le samedi à 16h et 21h et le dimanche 25 à 16h. Donc vous allez nous faire de tous les genres de lumière, si j'ose dire.
Oui.
C'est la première fois qu'on investit le parc du château.
Oui, donc le château est vraiment une aide pour le festival. Ils nous donnent accès à la grange qu'on réaménage complètement en théâtre. Ils nous donnent accès à l'orangerie pour certaines lectures et rencontres apéritives.
J'aurai le plaisir de vous y retrouver, tiens.
C'est exactement, le dimanche. Et là, pour la première fois, ce qu'on voit par la fenêtre du château, eh bien, on va le vivre à travers ce spectacle. Donc oui, c'est une première pour ce lieu privé.
Allez, on va encore donner quelques mots, hein, puisque le thème général, c'est des notes, des corps et des mots. Alors, on va encore en donner quelques-uns, Mathieu Noël, sur les autres formes de spectacle ou les autres approches qu'on peut encore découvrir.
Alors, Christine Delmotte vient avec « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». 4 épisodes importants du mouvement féministe, qui ce sera sous le grand chapiteau des baladins.
Golem avec...
Alors, Golem, c'est...
Un sculpteur.
Là, on reste dans le très original. C'est un breakdancer qui se fait accompagner d'un sculpteur et qui nous porte le spectacle Golem ensemble. Donc là, c'est la rencontre de deux disciplines et cette volonté de renouveler le genre à Toricourt. On est en plein dans Golem.
Je lis qu'on va encore même rencontrer du violon.
Oui, donc Totus Cordus.
Claude Vonin.
Exactement. Donc là aussi, c'est un vrai interprète classique avec toutes les compétences que ça demande. Son souci est d'être accessible au plus large public et il va nous retracer l'histoire du violon depuis l'homme des cavernes jusqu'au violon à Venise. Donc c'est toutes les cordes frottées, chaque étape les unes après les autres. Donc il campe tous les personnages puisque c'est un seul en scène. Et là aussi, comme dans le spectacle Jukebox Opera, on a une qualité d'interprétation de chacun des passages qui est vraiment bluffante, entrecoupée de récits qui sont parfois loufoque, il faut bien le reconnaître.
On aura aussi l'évocation de Jean de La Fontaine, je vois qu'on va même avoir un acrobate. Bref, il y en aura vraiment pour tous les genres, et puisque vous aviez cité la lecture apéritive, on va quand même en donner un mot, puisque la ville syrienne de Daraya et ses passeurs de livres, c'est vrai que c'était quand même un moment très intense, hein, conserver ou récupérer des livres dans les bombardements syriens et maintenir une bibliothèque et de la culture accessible dans une ville le plus longtemps possible, parce que malheureusement, ils n'ont pas su tenir jusqu'au bout.
Alors là, c'est Philippe Léonard qui est à l'origine du projet, qui est le comédien qui le porte. Il a vécu la Syrie avec son guide du Routard avant la guerre. Et donc, il fait la comparaison entre ce livre d'Araya, une ville en guerre dans lequel on essaye de reconstituer une bibliothèque. Donc, il ramassait les livres dans les débris pour les regrouper et les personnes qui restaient encore sur place et la possibilité de se rencontrer autour de livres. Et donc, il compare son expérience de la Syrie à l'époque du guide du Routard où il tournait les pages, où dormir, où manger, à ne pas manquer, avec ce récit de Daraya, une ville en guerre, une ville détruite. C'est très sobre, mais c'est très universel. C'est un magnifique projet.
Merci à toutes et tous d'être venus nous donner l'envie de nous rendre entre le 21 et le 25 août. Je vous préviens, il faut réserver. C'est très couru, le Festival du Théâtre Ouvert à Silly. Donc c'est vraiment un beau moment. Merci, on a déjà envie d'y être. Et on se quitte avec Michel Polnareff qui nous dit « Dans la rue ». Bah oui, précisément, comme les festivals de théâtre, par exemple, dans la rue. Allez, soyons-y et soyons au rendez-vous hein, de toutes nos sorties, mais aussi dimanche prochain de Majuscule.
De mon appartement dans la rue, je suis chez moi dans la rue, je suis au cinéma dans la rue, je renais, ouais. De mon appartement.
battre le cœur. Je fais la boule, quelquefois dans la foule. Je circule au volant d'un module. Il n'y a plus d'essence dans mon moteur.
Et je ris de me voir si seul dans mes rouages. Dans la rue, je suis chez moi.